pas, il est là-bas, qui va, si vous êtes troublé par un manque de cravate, ça doit remplacer la cravate. Et, deuxième chose, je pense, je vous dis tout de suite, ça n'a aucun rapport avec le sujet, mais je trouve que c'est bien de connaître nos frères et nos sœurs. Et j'ai eu l'expérience hier de connaître un peu mieux un certain frère. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui essaient de trouver les réponses ici et là à côté. Et puis il y a d'autres qui vont directement à la source. C'est-à-dire qu'hier, moi je suis allé avec les frérots en Suisse. On était là, on nous a dit que c'était l'Ascension ici en France, bien sûr. Tout le monde était au courant. Alors, on décide d'aller en Suisse parce que là, au moins, peut-être, ce n'était pas un jour férié. Mais Kelly avait déjà demandé à Raymond Perru si c'était un jour férié. Bien sûr que oui. Alors, on va quand même. Là-bas, une fois dans cette ville, je n'arrive jamais à prononcer cette ville, c'est Port quelque chose, à peu près 20 km d'ici. On arrive, tout est fermé, mais on se promène quand même. Et on arrive à un certain point où on voulait savoir si, en vérité, tout était fermé, parce que c'était un jour férié. Alors Jean-Marie, au lieu de demander à une jeune qui serait embarrassée, au lieu de demander à un autre adulte qui passe, qu'est-ce qu'il cherche? Une religieuse. qui passe. Et il ose demander, est-ce qu'aujourd'hui c'est un jour férié? Vous pouvez imaginer au moins la tête de la religieuse. Vous avez raison avec l'imagination. Bref, que votre cœur ne se trouble pas par la solitude. C'est un sujet qui est un peu difficile. Je dois admettre que j'ai abordé des sujets beaucoup plus faciles que ça. Et en partie parce que c'est quelque chose qui me touche, mais je pense que ça touche chaque personne ici dans cette pièce. Le problème, plutôt, c'est un problème avec les définitions de termes. Et moi, je voudrais essayer de distinguer ce matin entre deux mots. Le fait d'être seul et la solitude. C'est pas du tout pareil. Il y a plusieurs personnes ici qui, dans le sens physique, ils sont seuls. Soit qu'ils sont célibataires, hommes, femmes, soit qu'ils sont veufs ou veuves, divorcés, ou plein d'autres possibilités. Et on est seul, dans le sens physique. Ou peut-être on est un élève à l'école et tous les autres essaient de se mettre vraiment à part. On ne peut pas être avec toi. Et on a l'impression, là, on est seul. Mais ça, c'est dans un domaine où il faut bien comprendre. C'est pas la solitude. Pas forcément. Quelqu'un a dit, peut-être c'est un peu trop vite fait, qu'on n'est jamais plus seul que quand on est au milieu d'une foule. Il faut bien comprendre cette phrase. C'est tout à fait vrai. Pour moi, étant célibataire, à quel moment est-ce que j'ai vraiment l'impression d'être seul? Quand je suis chez moi, tout seul? Non. C'est si je sors dans un restaurant et je suis entouré de couples. Un élève à l'école, à quel moment est-ce qu'il a l'impression qu'il est seul? Quand il est là, dans la cour, il n'y a personne? Non. Quand il y a plein de gosses en train de jouer, et lui, il doit rester sur la touche. Lui, il doit rester là sur un banc. Il est exclu. C'est quand on commence à faire des comparaisons qu'on se rend compte qu'on est seul. Ce mot comparaison, le fait de faire des comparaisons, je trouve que c'est un des plus grands problèmes pour les chrétiens. J'arrive à faire mon travail pour le Seigneur jusqu'au point que je vois quelqu'un à côté qui ne fait pas autant et je dis bon, alors j'ai pas besoin de faire tout ça, ou que je commence à critiquer l'autre personne. Mais il y a plein de problèmes qui arrivent parce que, hélas, je fais des comparaisons. Le fait d'être seul, ça tombe dans le même domaine. C'est quand on commence à voir quelqu'un à côté, on fait des comparaisons. Mais comme on a bien discuté avant, dans les classes, On pense toujours que c'est mieux de l'autre côté. Mais nous, comme êtres humains, on a des problèmes, peu importe notre situation physique. Et même parfois, même souvent, il est très efficace d'être seul. Il faut bien comprendre dans le sens que je parle. Seul dans le sens physique, d'être quelque part, tout seul, personne autour. Regardez bien les exemples dans la Bible. Si vous aviez la possibilité, avec les 10 lèpres, est-ce que vous voudriez bien être un des 9 ou le seul qui est revenu chercher Jésus? Moi au moins, je préfère être seul dans ce cas-là. Si vous êtes avec les copains à l'école ou avec les collègues de travail, et tous les autres préfèrent dire des vulgarités, de sortir faire n'importe quoi, et vous êtes le seul à ne pas le faire, à votre avis, Jésus serait content avec quel groupe? La personne toute seule. Ou même, peut-être, je peux lire un verset dans l'Ancien Testament, Job chapitre 10 et le verset 20. Job, il est là, il est accompagné par ses, entre guillemets, ses amis. Et lui, il ose dire, « Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre, qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je reprenne un peu courage. » On pense, on voit qu'il y a un problème devant nous et trop souvent, on cherche une solution facile. On pense que si on est bien entouré par plein de personnes, on ne sera plus seul. On se trompe. Ici, c'est une situation où Job était bien entouré par ses copains et il a envie qu'ils partent afin qu'ils puissent reprendre le courage. Et puis, si ça, c'est pas suffisant, j'aime bien un passage en Osée, chapitre 2 et le verset 16. Là, le prophète, il parle pour Dieu. C'est pourquoi, voici qu'en la séduisant, moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Il me semble, je parle pour moi-même et pour vous tous, il me semble que nous, comme chrétiens, on ne passe pas assez de temps seuls. On a peur de cela. Et justement, d'après ce que le prophète dit ici pour Dieu, parfois on a besoin d'être dans le désert. Parce que je commence à me rendre compte que je ne suis pas si bien que ça. Que j'ai vraiment besoin de quelqu'un. Et je commence à être un peu plus humble. Je commence à voir ma situation un peu plus clairement. Et c'est pareil pour chaque personne ici. On peut se tromper très facilement. On peut dire pendant la journée, je vais vraiment remplir ma journée avec plein d'activités. Soit avec ma famille, ma femme, soit avec d'autres copains, soit avec la télé, le film, je ne sais pas quoi. Et quand on a 5 minutes à rester tout seul, assis dans notre fauteuil, est-ce que ça vous gêne de rester là longtemps? Pas parce que vous pensez que vous êtes en train de gaspiller votre temps, mais parce que vous n'aimez pas le fait de réfléchir et de voir « Qui suis-je ?» Si ce n'est pas suffisant de regarder l'exemple de Job, ou Osée, malgré le fait que c'est Dieu qui parle à travers Osée, écoutez bien ces phrases tirées des évangiles. C'est Jésus lui-même. Jean 6, verset 15. « Il se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. » Marc 1, 35. « Vers le matin, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. » où il se mit à prier. Marc 14, verset 23. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. Il y a un problème dans notre société parce qu'on met trop souvent les deux ensemble, le fait d'être seul et la solitude. Mes frères et sœurs, on a besoin de nous éloigner de la solitude, mais on a besoin de chercher le fait d'être seul de temps en temps. Jésus lui-même est notre exemple. Si on veut suivre Jésus dans tous les autres domaines, alors c'est vraiment le temps de commencer à le suivre dans ce domaine aussi. Et Dieu lui-même, qui sera élevé à la fin du temps? La Bible dit Dieu seul. Il y a quelque chose de très positif avec le mot « seul ». Ça montre que c'est quelque chose où on a assez de courage pour être différent. Ça montre aussi que c'était quelque chose qui était choisi. Si moi je suis seul, c'est par choix. On peut toujours trouver des personnes à être à côté de nous, même si c'est le fait d'aller au bar qui est tout près de chez nous. On peut toujours avoir des personnes autour de nous. Quand on est seul dans ce sens-là, c'est par choix. Et on a besoin de chercher ces moments. Pendant les 2 jours ici, déjà, plusieurs personnes ont parlé de la solitude, le fait d'être seul. Alain Roux, il a mentionné ça, qu'à un moment donné, il avait l'impression d'être seul. Il est marié, il a 2 filles. Ça, ce n'était pas le problème. On arrive à un problème, la solitude. Mais croyez-moi, c'est tout à fait opposé au fait d'être seul. Avec la solitude, c'est plus le fait d'être seul dans le sens physique, mais c'est quand on a l'impression ou l'attitude. Moi, je suis tout seul. Alors vous allez dire, Robert, c'est la même chose. Mais je regrette. Même si c'est subtil, il y a une grande différence. Est-ce que vous croyez que Jésus était en train de se plaindre, moi je suis tout seul, quand il priait? Il faisait ça par choix. Il voulait être là, il cherchait les moments, même si c'était tard la nuit, même s'il était obligé de se réveiller très tôt le matin, il voulait être seul. Il avait besoin de cette force avec son Dieu, son Père. Mais la solitude est autre chose. Et on peut avoir cette impression, on peut se sentir seul, la solitude, plein d'endroits. Un élève à l'école, quand il a vraiment l'impression que tout le monde est contre lui. Ça peut arriver aussi pour prendre une décision. On a l'impression qu'il n'y a personne qui comprenne notre situation. Et on est seul. Ça peut être même le fait d'être ici à cette retraite, en train de manger, et vous êtes là à table, vous avez l'impression que tous les autres, ils ont des petites discussions. Et toi, vous êtes là et je mange. Et vous avez vraiment l'impression qu'il n'y a aucune personne qui pense à vous. Et malgré le fait qu'il y a 175 personnes, la plupart des chrétiens, vous avez la solitude. Et vous n'êtes pas seul dans le sens physique. Loin de ça. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Est-ce qu'on devrait être étonné quand Jean-Marie Frérot, il a mentionné le chiffre de personnes qui se suicident. Et c'est déjà offert par Doyle et par Jean-Marie. Une possibilité pour tous ces suicides, c'est la solitude. C'est normal. Quand vous avez l'impression que vous êtes vraiment seul, dans la solitude, on s'enfonce dedans. On a l'impression qu'il n'y a personne qui peut nous aider. et c'est fini. À quoi sert la vie? Ça arrive à des personnes célibataires, ça arrive à des maris de famille. Moi, je connais un homme qui avait 32 ans. Il venait d'acheter une maison aux États-Unis, tout était payé, une femme, un enfant de 4 ans et un autre enfant qui vient de naître. Il avait tout. Il était bien payé, il travaillait à la banque, et un jour, on l'a trouvé à côté de la route, dans sa voiture, avec une balle dans sa tête et avec une lettre. « C'est moi qui l'ai fait. Ma vie ne sert à rien. Je suis seul. » C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il était chrétien en plus. Parce que ce qu'on voit à l'extérieur, c'est pas ce qu'on voit à l'intérieur. Et on touche trop souvent les problèmes à l'extérieur. Au lieu de toucher le problème à l'intérieur. Au lieu de parler toujours du fait d'être seul dans le sens physique, c'est le moment de parler du fait d'être seul à l'intérieur. Et ça nous touche tous. C'est pas seulement dans une classe de célibataires. Le problème principal, c'est qu'on n'a pas bien retenu la leçon. C'est un simple petit truc. N'importe quel enfant pourrait mettre les deux ensemble et vous donner la réponse. Moi plus Dieu égale 2. 1 et 1 font 2 toujours. Ça, on connaît très bien, c'est bien là dans la tête. Mais trop souvent, c'est pas là dans le cœur. Il est impossible pour un véritable chrétien d'être dans la solitude. Oh, comprenez bien, moi parfois je m'enfonce dans la solitude. On a des hauts et des bas. Mais si à ce moment-là je suis avec Dieu, il est impossible d'être dans la solitude. Je voudrais regarder deux passages dans les psaumes où David nous parle. D'abord, c'est le psaume 25. D'ailleurs, on a chanté les premiers versets ce matin, « Vers toi, Seigneur ». Mais moi, je voudrais lire avec vous le verset 15 à 22. On a David devant nous, à un moment où il y a plein de problèmes pour lui. Il se sent seul. À partir du verset 15. Mes yeux sont toujours tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir de mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Les angoisses ont rempli mon cœur. Fais-moi sortir de mes angoisses. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils m'haïssent. Garde mon âme et délivre-moi, que je ne sois pas couvert de honte quand je me réfugie en toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets en toi mon espérance. Ô Dieu libre, libère Israël de toutes ses détresses. David, il se sent seul, mais au moins David, l'homme qui avait le cœur selon Dieu. Lui, il savait très bien où aller pour rectifier le problème. Son est Dieu. Et pour nous aussi, s'il y a des moments où on a l'impression qu'on s'enfonce dans la solitude, qu'il n'y a personne qui nous comprenne autour de nous, c'est le moment de penser encore cette petite idée, moi et Dieu font deux. Et de passer un peu de temps tout seul, dans votre chambre, en train de méditer, de prier à votre Dieu. Il me semble tout à fait normal. si lui veut être toujours à côté de moi, quand j'ai un problème, c'est un peu bizarre que je vais chercher n'importe qui d'autre sauf lui. Un parent serait vraiment troublé s'il a une bonne relation avec son fils. Et puis il voit que son fils a un problème et il va parler à n'importe qui de son problème. Et le père, il dit, mais pourquoi il n'a pas confiance en moi? Moi, je vois le problème et en plus, j'ai une solution. Notre Père Céleste, pas seulement il est notre Père, mais il m'a créé. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin pour bien vivre. Quand j'ai un problème, pourquoi chercher d'autres personnes d'abord? Premièrement, c'est mieux de chercher mon Dieu. Bien sûr, mes sœurs et mes frères m'encouragent et Dieu travaille à travers vous. Mais d'abord, pensons-nous à notre Dieu. Et puis le psaume 68, et le verset 6 et 7. Ou même 5 à 7. Si l'autre n'était pas assez clair, je pense qu'ici c'est très clair. À partir du verset 5. Chantez à Dieu, psalmodiez en l'honneur de son nom. Frayez le chemin à celui qui chevauche dans les plaines. L'Éternel est son nom, exultez devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte résidence. Dieu fait habiter les solitaires dans une maison. Il fait sortir les prisonniers pour leur satisfaction. Mais le rebelle seul demeure en des lieux arides. Le verset 7, il y a plein de choses dedans. Surtout en ce qui concerne le fait d'être seul et la solitude. Dieu y prend soin des personnes qui sont seules. Les seules personnes, même si ça semble être vraiment un paradoxe ou ironique, les seules personnes qui sont seules, qui sont vraiment dans la solitude, ici sont les rebelles. Les rebelles seuls demeurent en des lieux arides. C'est seulement eux qui vont vivre dans les déserts. Si on ne veut pas être dans la solitude, on a besoin de se mettre avec Dieu. Et forcément, on n'est pas dans la solitude. On ne sera pas dans les lieux arides. Et Jésus lui-même, Jean chapitre 16, et le verset 32. J'aimerais bien avoir toujours cette attitude. Le verset 32. Voici que l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Regardez bien ce qui suit. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Impossible d'être seul, c'est-à-dire dans le sens spirituel, dans le sens figuratif, si on a notre Dieu. Moi, je vous encourage, d'un côté, de vous éloigner de la solitude, en cherchant de plus en plus la possibilité d'être seul avec votre Dieu. Il est difficile à séparer les deux, mais je pense que c'est le moment de le faire. Être seul, la solitude. On a besoin de chercher un côté qui est très positif. On a besoin de s'éloigner de l'autre côté qui est négatif. Osez rester seul. Il y a une petite chanson, c'est un chœur d'enfant en anglais. J'ai même pas pris le temps pour le traduire correctement, mais tant pis, vous allez comprendre. Osez être un Daniel. Oser être seul. Oser avoir un but solide. Oser le partager. Il y a combien de Daniel parmi nous? Ou il y a combien de Paul? On a déjà fait référence aux Actes, chapitre 17. J'aime bien ce sermon. Où tout de suite, Paul, il cherche une occasion pour trouver la possibilité de se mettre d'accord avec eux, de trouver quelque chose, un point commun. Mais avant cela, est-ce que vous avez bien remarqué la situation? Paul, il était à Thessalonique avec Silas et Timothée, bien entouré. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils font? La foule, les Juifs, ils sont contre lui. Il a besoin de partir tout de suite. Et il part avec Silas et Timothée. Il arrive à Bérée. Les gens commencent à croire en Dieu. Mais encore, ces Juifs de Thessalonique, ils viennent et ils veulent tuer Paul. Paul, il part. Tout seul, il arrive à Athènes. Je dois vous admettre que si c'était moi, Paul, j'aurais dit, alors ça suffit, déjà deux fois que j'étais découragé. J'ai déjà envoyé pour Paul et Silas, pour Silas et Timothée, ils vont me rejoindre. Alors je prends une chambre à l'hôtel, je vais attendre deux jours, ils seront ici, et puis à trois, on va vraiment être fort pour parler. La Bible dit en Actes, chapitre 17, il était exaspéré en voyant toutes ces idoles. Il ne pouvait plus. Et tout seul, à un endroit qui était très, très connu de l'époque, l'Aréopage, il se met debout et il parle. Parce que Paul aussi, il avait bien compris la formule. Dieu et moi font deux. Oser être seul, mais éloignez-nous de la solitude. Merci.